Cette fois, ça y est. C'est la dernière de la saison. Une saison, ma foi, surprenante, mais bien réussie à titre radiophonique. Nous sommes en juin et les giboulées de mars s'en donnent à cœur joie. Cependant, vous n'en avez que faire car il est 21h passé de quelques minutes ce mardi et c'est donc le moment que vous avez attendu depuis maintenant 15 jours. Vous êtes délicatement installé au fond de votre fauteuil et vous allez vous laisser porter par les ondes de Radio G sur le 101.5 FM en compagnie de Linda, Luc, Toups et votre serviteur servile Julien. Calibre 58, c'est maintenant et pas autrement.
Some action in Peel County. Police are on the lookout for a dark green 1967 Buick, believed to be carrying the three men who robbed the city bank yesterday. This report follows an announcement of a second death in a robbery. The 22-year-old teller, Richard Martin, in critical condition since the shooting, died early this morning. He leaves his 19-year-old wife and three-month-old baby.
Lucy!
The voice of the Tri-Counties.
En 1974, Ernest Borny, Les Douze Salopards et La Horde Sauvage, est un justicier dans la Cambrousse qui en remontrerait même à Charles Bronson. Enfin, pas tout à fait au début de Sunday in the Country, un film de la Exploitation, H-I-C-K-S, comme Pecno, du méconnu John Trent. Le vieil Adam, c'est un agriculteur aigri qui vit dans la rédemption religieuse. S'il a perdu sa femme et sa fille, sa petite fille, en revanche, vient de rentrer de l'université. Il a, pour l'aider, un colosse qui paraît simplé et deux chiens qui paraissent féroces. À un braquage sanglant et à un double homicide à proximité de la ferme vont faire exploser l'embryon de faux calme domestique qui règne. Pourquoi ? Parce que cernés de toutes parts, les malfrats vont vouloir venir se réfugier, bah oui, dans la ferme. Alors, les malfrats, ils sont au nombre de trois. Deux sont encostumés, ont un âge respectable et présentent plutôt bien. Le problème, c'est le troisième. Véritable psychopathe sur pattes. D'ailleurs, c'est lui qui est la cause de tous les morts et qui a même voulu violer une jeune femme. Seulement, ces malfrats vicieux sont avant tout des citadins. Et il ne fait pas bon vouloir affronter un pecno de la Cambrousse américaine. Surtout quand c'est Ernest Borgnine. Le film, donc, est assez surprenant. Il se déroule en trois temps. Et si le premier est banal, avec le suspense et la peur qui monte à mesure que les braqueurs se rapprochent de la ferme, les deux derniers le sont moins. Passé la première demi-heure, les malfrats frappent à la porte. Et c'est un déchaînement de violence qui les attend. Le film pourrait alors verser dans un manifeste hagiographique de la justice personnelle, mais c'est sans compter sur le personnage joué par Hollis McLaren, la petite fille de Borgnine dans le film, insouciante, qui écoute la radio comme tous les jeunes de son âge, qui fait la cuisine à partir de livres de recettes, au contraire de sa grand-mère, et qui va venir se heurter frontalement avec son grand-père sur la question.
Lucy, are you going to let them killers come between us?
Do you know what you're saying?
Well, of course I do, and they ain't worth it.
If they ain't worth it, then why in the hell are you doing it?
Now, there's no need to swear, and I told you.
You haven't told me a goddamn thing.
Now, don't use the Lord's name in vain.
Do you call chaining people on the manure pile more righteous than using the Lord's name in vain?
Le tout jusqu'à un clash final où elle franchit les rives d'une hystérie que l'on comprend. Moins gore que ses contemporains, Délivrance et Massacre à la tronçonneuse, le film reste aujourd'hui encore suffisamment effrayant et réussit surtout le tour de force de laisser un goût amer lorsqu'il se termine. Sunday in the Country de John Trent avec Ernest Borgnine et Hollis McLaren, c'est chez Artus Film dans un joli coffret avec livret qui inaugure la collection Rednecks.
Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la symbolique des nombres. Moi, je m'y confronte régulièrement. Que serait le numéro 5 sans Chanel, le numéro 66 sans la Route 66, le numéro 7 sans la Nationale, le numéro 1 sans le Hit Parade, le numéro 13 sans le Vendredi. Pourtant, un nombre tout particulier me plonge dans des abîmes de réflexion, le numéro 2364. Il n'a aucune valeur numérologique, n'est même pas un nombre premier, n'est pas spontanément mémorisable, est sinistrement coincé entre le numéro 2363 et le numéro 2365. En fait, ce n'est qu'un numéro lambda. Allez, foin de ratiocination métaphysique et entrons dans le cœur de cette chronique. Je vais parler d'un roman noir, j'ai bien dit roman noir, pas polar. Pour cette dernière de la saison, je vais vous parler de « La vie de ma mère » de Thierry Jonquet. Je suis désolé par avance, ce roman ne vous fera pas tout l'été. 143 pages au total, 80 minutes de lecture, comme on dit dans les articles publiés sur Internet ou dans le journal Métro. 80 minutes pour un voyage dont on ne ressort pas indemne. Avertissement. N'allez surtout pas lire la présentation de la vie de ma mère sur Babelio. Si vous voulez vraiment rire, allez-y seulement après l'avoir lu. Ne lisez pas non plus les critiques sur cette même plateforme. Elles parlent de l'adaptation de la BD, pas du roman. Or donc, la vie de ma mère, eh bien, cela commence très très mal, puisqu'on peut se demander s'il n'y a pas escroquerie sur le titre. Il ne s'agit pas de la biographie de la maman du héros. En réalité, ce n'est qu'une longue confession, un monologue en deux parties. De celui qui parle, on ne saura rien, même pas son prénom, sinon qu'il s'agit d'un garçon d'environ 12 ans. Il raconte sa vie entre la fin du CM2 et l'entrée en 6e, en tout, moins d'un an de sa vie. Au début de cette confession, lui et ses trois potes, Farid, Mohand et Kaou, sont des petits emmerdeurs de la cité, ceux qui foutent le souk en permanence par ennui. Pas méchant, mais chiant, très chiant. La bande va se disloquer sur fond d'islamisation et le héros va rejoindre une bande beaucoup plus âgée, 16 ans et plus, beaucoup plus dangereuse et aussi qui va l'intégrer dans sa dérive délinquante. Ce roman, je l'ai lu à sa sortie en 1994 et cela avait été un choc. C'était la première fois pour moi que la jeunesse des quartiers entrait dans la littérature avec une retranscription de la langue aussi réaliste. En 143 pages, les pulsions de vie et de violence de ce qu'il est devenu normal d'appeler aujourd'hui les quartiers, mot que l'on n'entend plus qu'entre guillemets et en italique, éclataient. Dans la vie de ma mère, le héros tutélaire qui forge l'imaginaire du personnage principal, c'est l'inspecteur Harry dans ce qu'il a de plus réactionnaire. Dans la vie de ma mère, tout un langage a surgi, les keufs, les meufs, les fromes, les feuges, les rebeux, les renois. Les personnages n'arrêtent pas de se taper la discus. On y écoute Ayam et on s'y fringue stylé. Le roman a peut-être vieilli. Je dis bien peut-être, je n'en suis pas si sûr. Il a sans doute vieilli parce qu'il est inscrit dans une époque, celle des SES, ancêtres des classes SECPA, des contrats emploi solidarité, CES, ancêtre des emplois jeunes. On y parle de la guerre en Bosnie, C'était il y a 26 ans, un quart de siècle. Dans ce roman, il y a une face A et une face B. Et c'est peut-être aussi dans ça qu'il est daté, mais cette fois, dans le très bon sens du terme. Thierry Jonquet a voulu nous faire comprendre cet univers, mais cela semble un peu trop didactique. Cela fait sans doute un peu les années 90 pour les nuls. J'imagine la conséquence de son métier, instituteur. On ne disait pas encore professeur des écoles. Autre faiblesse, le roman est un peu trop angélique. Que ce jeune garçon découvre les yeux d'Elsa d'Aragon et cherche à écrire comme le poète, par amour, paraît peu ou pas crédible. Mais à la relecture, c'est un roman qui participe de la mythologie au sens ancien du terme. On n'échappe pas à son destin. La vie de ma mère, c'est Œdipe, c'est Orphée. On sait que c'est fichu d'avance, mais pourtant, cette déchéance est belle. C'en est désespérant à pleurer. Si j'étais un critique, j'utiliserais inévitablement l'expression « roman âpre ». Mais je ne suis pas un critique. Je me limiterai donc à l'expression encore trop banale de roman d'une jeunesse perdue, mais vraiment perdue. Le roman s'appelle « La vie de ma mère ». Il est de Thierry Jonquet. Il faut rappeler combien Thierry Jonquet est important dans la littérature noire. Avec les Fajardi, Denynx, Pouilly, Villard et quelques autres, ils ont procédé à une véritable carchérisation du roman policier traditionnel en y introduisant le gauchisme, la violence sociale, les marginaux et les exclus. Thierry Jonquet a utilisé des pseudonymes, Martin Eden, ce qui le rend aimable, mais aussi Ramon Mercader, ce qui est plus incompréhensible. Mais j'en entends déjà certains d'entre vous geindre. Le numéro 2364, pourquoi le numéro 2364? Eh bien tout simplement parce que La vie de ma mère est parue sous ce numéro dans la série noire de Gallimard.
Alors bon, c'est bientôt l'été au cas où vous ne le sauriez pas. Il n'est pas dit que nous pourrons tous aller sur les côtes françaises et encore moins européennes. Donc, je vous ai concocté un petit périple de Barcelone à Athènes en passant par Marseille et Florence. Ah, Barcelone, sa criminalité urbaine, sa corruption endémique, sa chaleur et sa gastronomie. Qui d'autre que le détective Pepe Carvalho pourrait vous convertir à ses charmes? Le personnage récurrent de Manuel Vázquez Montalvan, cher à tous, vient de reprendre du galon sous la plume de Carlos Zanon. Tout fout le camp, c'est le titre de ce nouveau roman paru au Seuil. Il nous emmène dans une cité que son auguste père littéraire n'a pas eu le temps de trop connaître. Une ville envahie par les touristes et en proie à une volonté indépendantiste sur fond de double assassinat dans le quartier de l'Exemple et de tueurs en série. On est peut-être un peu loin des romans sociaux et politiques de Montalban, mais Carlos Zanon a bénéficié du soutien de la famille. Et c'est également un bon écrivain. Épluchez donc le catalogue des éditions Asphalte pour vous en convaincre. Quittons Barcelone pour nous poser quelque temps à Marseille, ville de Jean-Claude Izot et de sa trilogie autour du personnage de Fabio Montal, qui a bien des points communs avec le détective catalan précité, surtout la cuisine et évidemment ses convictions. Mais remontons le temps en compagnie de Dominique Manotti, qui nous ramène en 1973, quand la police marseillaise, gangrenée par l'OAS, le grand banditisme et les petites frappes, était hyper violente, raciste et criminelle. Ce que, de toute évidence, elle n'est plus aujourd'hui. La cité phocéenne est en proie à une vague de crimes racistes, d'assassinats d'Arabes. Au milieu de ce maelstrom peu reluisant, le commissaire Daquin, transfuge de Paris, va tenter de ramener un peu de justice. On ne dira jamais assez de bien de Dominique Manotti. Cette historienne de formation, engagée de longue date, propose une œuvre particulièrement intéressante. Et ce roman, Marseille 73, aux arènes, dans la collection Equinox, est un de ses tout meilleurs. On fait un petit intermède musical, puis on file à Florence.
Oh, miña Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh miña vida, miña mambembe, miña ladera. Oh miña menina, miña querida, miña valeria. Oh miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Torcida, miña querida, miña galera. Miña vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Oh, miña maconia, miña torcida, miña querida.
Florence et son joyeux bordelli. Un commissaire créé par Mario Vici. Avec lui, on remonte encore plus le fil du temps pour nous retrouver au début des années 1960 dans une Italie encore meurtrie par les années de guerre. Si la gastronomie est bel et bien présente, c'est avant tout le climat qui prend une certaine importance. Et aussi un petit côté langoureux. Le premier volet, le commissaire Bordelli, pose les jalons d'un personnage attachant. Il est donc conseillé de commencer par lui. Une sale affaire est assurément un roman à découvrir sur fond de criminels de guerre, de mauvais temps, d'amour confondu et de désabusement. Les deux romans sont disponibles chez 10-18 après avoir été publiés chez Philippe Ray, un éditeur qui aime l'Italie. Par certains côtés, ce personnage de flic n'est pas sans rappeler Jules Maigret. Et de Bordelli à Charitos, le relais est tout trouvé. On arrive enfin en Grèce, à Athènes, après une courte halte dans la région hellénique de l'Épire. Et là, retour à notre époque. L'auteur, Petros Markaris, n'est pas un novice. Ses romans sont influencés par ses racines grecques et turques. Même s'il s'agit d'une série, même s'il y a une légère évolution des personnages et de l'environnement, vous pouvez tout à fait commencer par le dernier en date, à savoir le Séminaire des Assassins. Dans ce roman, des universitaires qui ont frayé avec des politiques sont retrouvés assassinés. L'enquête avancera lentement et on ne peut s'empêcher de penser que le milieu universitaire grec est encore bien politisé et que le régime des colonels n'est pas très loin. L'enquête, malgré 3-4 crimes, est somme toute plutôt sympathique, avec un commissaire qui monte en grade mais qui est dépassé par la réalité virtuelle. On prend plaisir à découvrir quelques plats alors que notre homme semble très fatigué, que sa femme est dans tous ses états et qu'elle va se sentir trahie alors même que leur fille attend un enfant. Avec toutes ces pistes touristiques, vous voyagerez à moindre frais avec un bilan carbone respectable. Et si vous avez envie de multiplier les détours urbains, il existe chez Asphalt une petite collection dans laquelle vous devez absolument piocher. Voici quelques-uns des titres à découvrir. Barcelone Noire, Marseille Noire, Rome Noire, et oui, je suis désolé, pas de Florence Noire, et Athènes Noire. Vous aurez comme guide les meilleurs auteurs de romans noirs de ces villes. Alors, bonnes vacances!
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's there.
Bonsoir Julien.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous avez vu, je suis bien accompagnée et grâce à Mr. Toops, vous avez pu entendre ce morceau que tu vas nous présenter.
Un morceau qui s'appelle Talking About Revolution.
Et voilà, parce que c'est la thématique la révolution.
Tracy Chapman, un morceau qui a une trentaine d'années maintenant, peut-être un peu plus même.
Et tu disais, c'est ne pas confondre...
Oui, il y a Tracy Chapman qui chantait cette chanson il y a plus de 30 ans, et puis Tracy Chapman qui a repris le rôle de Sister Rosetta Tharpe dans la comédie musicale dédiée à Rosetta Tharpe.
Oh là là, dont nous avons parlé donc il y a 15 jours. Quelle cohérence. Alors justement, parlant de cohérence, Julien m'a mis dans les pattes un roman de Louise Michel. Louise Michel, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, non vous ne pouvez pas vous rappeler.
Attends, tu parles d'un roman à propos de Louise Michel?
Non, je ne parle pas d'un roman à propos, mais de Louise Michel. Juste, je voulais dire, pour moi ça fait la boucle, parce que la première émission qu'on a faite, je l'ai faite sur la thématique de la Commune de Paris, c'était les bandes dessinées de Tardy à partir du roman de Vautrin. Et donc Vautrin, Tardy, la Commune de Paris. Louise Michel a vécu la Commune de Paris. D'ailleurs, il en parle dans les bandes dessinées. Enfin, ils en parlent. Et elle a survécu. Elle a survécu même au jugement. Elle a été déportée. elle est revenue. Et ça, ce qu'elle a écrit là, c'est donc un roman qui s'appelle La chasse au loup. Elle l'a écrit et ça a été publié sous forme de roman 20 ans après la Commune de Paris. Donc ça a été publié dans un journal. Et c'est pile 20 ans parce que ça se termine, ça finit d'être publié le 23 mai et c'est pile les dates de la semaine sanglante, donc l'écrasement de la Commune de Paris par les troupes de Thiers au nom de la République. Voilà, alors moi je vais vous parler du roman que donc Julien m'a mis dans les pattes. C'est une espèce de grande épopée qui démarre en Russie. Enfin, c'est vraiment comme un roman épique. Et c'est pas réaliste. Alors, c'est comment vous dire ? C'est un mélange. Elle s'appuie, cette courageuse et en colère Louise, s'appuie sur des faits historiques, mais elle ne respecte pas l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fois, on est vraiment... Il y a plein d'allusions, et puis c'est imprégné de choses qui se sont réellement passées, mais elle les remanie, elle les réécrit. C'est comme si, en fait, parce que pour elle, l'histoire, la grande histoire, étant écrite par les vainqueurs, eh bien, pour l'écrire, il faut pour elle s'en sortir. Et comment s'en sortir ? Eh bien, elle utilise le contexte, mais elle recrée les événements, en fait. Et donc, c'est très onirique, ça lui a d'ailleurs été reproché, c'est très onirique. Et c'est le rêve, en fait. Il y a même un chapitre qui s'appelle « Le rêve de l'esclave ». Donc, ce serait ça, en fait. Parce qu'elle fait des allusions qui sont très, très claires hein, par rapport à l'annihilation de l'individu. Alors, elle parle de ça très concrètement. Alors, vous allez voir, on est en plein... C'est très actuel par rapport au capitalisme et les problématiques plus d'un siècle plus tard. L'annihilation de l'individu en faisant produire à chacun plus vite et mieux une seule chose. Ce qui ne profite qu'au maître, en fait. Parce qu'au niveau du bien-être, etc., et du développement, en fait, même il mise sur le fait que les personnes mettront plus de temps à se développer et que ça pourra perdurer. Donc là, c'est quand même... Ça m'a fait penser, moi, à une série de documentaires, d'ailleurs, qui sont passés sur RT. Alors, malheureusement, ils ne sont plus disponibles. Ils sont sur le monde ouvrier. Là, j'avais l'impression d'être ballottée entre les deux, mais bon, un siècle et demi après. Et elle est vraiment en colère. Hein. C'est une écriture... faut dire qu'elle a quand même vécu tous les massacres. Elle, pour elle, c'était presque une injustice d'être en vie, en fait. Tellement elle a vu de mort et de souffrance autour d'elle qu'elle comprenait... Enfin, voilà, elle a eu l'impression de rester... d'être morte, encore vivante, mais morte. Donc, elle a... Toute sa vie, ça a été de porter cette injustice, essayer autour d'elle d'enseigner à ce que les gens puissent s'émanciper, les plus pauvres. Et elle n'a jamais... Même quand elle était déportée, elle défendait les Kanaks. Même des communards qui avaient un racisme.
Les Kanaks, elle était déportée
en Nouvelle-Calédonie, oui. Et sur place, elle continuait. Elle a monté des écoles pour les gens sur place, etc. Elle a appris à parler. Elle a jamais cessé quand elle était réfugiée à Londres. Elle a appris. Enfin, c'est incroyable, quoi. Elle a appris des langues sans cesse. Elle a toujours enseigné. Elle n'a jamais lâché. Quoi.
Donc, récapitulons, Louise Michel a survécu à la Commune. Elle a été déportée. En Kanaki.
Oui, mais après il y a eu la clémence. Enfin, ils ont annulé. Mmh. Donc les communards ont pu revenir, mais elle était en exil parce que il y a eu quand même des gens qui étaient en prison, etc. Puis après elle est revenue en France. Non, mais elle a une vie complètement incroyable. Elle a toujours resté pote avec Clémenceau quand même. Elle a eu une correspondance jusqu'au bout. Alors ils n'étaient pas d'accord.
Avec le tigre.
Oui. Elle a une grande correspondance. Et alors son écriture, elle porte tout ça. C'est l'expression écrire au scalpel. Mais elle, c'est pas au scalpel qu'elle écrit. Hein. C'est au poignard et à la hache, quoi. C'est vraiment. Elle est intransigeante. Il n'y a pas de quartier. Même le lecteur, il faut qu'il suive. C'est une espèce. Il y a une fougue. Elle transitionne pas, si tu veux. Hein. Elle cavale, quoi. Et il faut y aller. Moi, j'étais vraiment captée. Enfin, je trouvais ça très puissant. Très étonnant. Ça revient très souvent à la ligne. Ça enchaîne. C'est pas d'état. Enfin, elle décrit. Elle attrape. Elle croque. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et puis, qu'est-ce que je voulais... Ah ouais, il faut quand même que je vous lise, par exemple. Elle parle des... Alors ça, ça se passe, c'est une partie qui se passe en Angleterre. Et elle parle des plus miséreux, en fait, qui se regroupent en eux et qui vont de village en village pour essayer de trouver, on va dire, l'équivalent de dispensaire pour essayer de voilà, d'être soigné, de manger. Et donc là, ils sont en train de chercher, ils ne trouvent pas. Et ils sont arrivés dans une ville où il n'y en a pas, donc ils repartent. Et donc elle dit, le troupeau de misère s'en allait fouetté par la grande pluie. Quand ils arrivèrent à la seconde bourgade, deux manquaient. Une vieille, son petit enfant. Mais les troupeaux ne font pas l'appel. Et boum, elle passe à autre chose. C'est... Ouais, c'est... Voilà. C'est pas drôle, mais c'est pas misérabiliste non plus, hein. C'est plein de force. Ça m'a fait penser aussi à un documentaire que j'ai vu sur Arte également et qui passe toujours, que je ne saurais trop vous conseiller, qui est en deux parties, qui est sur Tiananmen. Et il y a un moment donné...
Tiananmen, la révolution...
En Chine, en 89, au printemps.
Ce qu'on a appelé la révolution étudiante, mais,
voilà.
Mais qui ne concernait pas que les étudiants.
Ah ben c'était d'abord les étudiants qui ont emmené ça, mais après, c'était toute la population, les ouvriers, il y avait des grèves, c'était, c'était hallucinant, l'afflux, et toute la population qui protégeait les étudiants, qui était vraiment solidaire. Il y a eu énormément de morts, qui ont été de gens de la population qui descendaient dans la rue pour protéger les étudiants quand les chars sont arrivés. La plupart des morts, c'était pas les étudiants, c'était sur les voies pendant la nuit, sur les voies qui menaient à la place Tiananmen, de gens qui voulaient retenir en fait l'armée. Et à l'intérieur il y a des interviews de gens qui ont survécu, qui sont en exil, et ils sont allés interviewer aussi un des protagonistes du printemps de Prague. Autre révolution de printemps, qui était vraiment un des porteurs de projets principaux, et qui est maintenant un vieux monsieur, et qui a eu ces paroles absolument glaçantes. Pour lui, les révolutions ne peuvent pas réussir. Elles sont ou écrasées par un bain de sang, ou dévoyées. Ça fait un peu gloops.
Ce petit vieux qui vient d'où, tu dis ?
C'était printemps de Prague.
D'accord, voilà. Qui a vécu le printemps de Prague en 68.
Ah ben, oui, qui a été vraiment en première loge. Voilà, donc ça, au niveau période révolutionnaire, là on est sur le printemps, c'est un peu plombant. Et pour fêter ça, Toups va nous passer un morceau qui va nous remonter le moral, qui est la thématique aussi de la révolution.
When the revolution comes.
When the revolution comes.
When the revolution comes, when the revolution comes, some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. When the revolution comes, when the revolution comes,
when the revolution comes,
preacher pimps are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. Faggots won't be so funny then, and all the junkies will quit their nod and wake up when the revolution comes. When the revolution comes, transit cops will be crushed by the trains after losing their guns, and blood will run through the streets of Harlem, drowning anything without substance. When the revolution comes, when the revolution comes. When the revolution comes,
when the revolution comes,
I hope pearly white teeth fall the mouths that speak of revolution without reference. The course of revolution is 360 degrees. Understand the cycle that never ends. Understand the beginning to be the end, and nothing's in between but space and time that I make or you make to relate or not relate to the world outside my mind, your mind. Speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. When the revolution comes.
When the revolution comes,
when the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be forts supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes. When the revolution comes, white death will fall the walls of museums and churches, breaking the line that enslaved our mothers. When the revolution comes, when the revolution comes, Jesus Christ is gonna be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy cab out of Harlem. When the revolution comes, when the revolution comes, Drew Merchant will give away matzo balls and gefilte fish to anyone they see with an afro.
Frank Schiffman will give away the Apollo to the first person he sees wearing a blue dashiki when the revolution comes. When the revolution comes, Afros gonna be trying to straighten their heads, and straighten heads gonna be trying to wear Afros when the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
But until then, you know and I know niggas will party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party. Some might even die before the revolution comes.
C'est un extrait du premier album d'un groupe qui s'est appelé The Last Poets, dont on peut raisonnablement dire qu'ils sont à l'origine du rap, du mouvement rap.
Non, parce que c'est quelle année ça ?
Cet album paraît en 1970.
D'accord.
Et c'est un groupe de trois musiciens qui sont poètes et puis percussionnistes qui se retrouvent. Trois ou quatre, et qui se regroupent deux ou trois ans après la mort de Malcolm X et pour dire des poèmes, et puis se produisent à gauche, de gauche à droite, et puis sont repérés par un producteur, et ils se retrouvent à enregistrer, ils font un album, et ça commence à...
Ok. Alors justement, par rapport à Malcolm X, nous allons pouvoir reparler du film Do the Right Thing, dont nous avons déjà parlé il y a 15 jours, donc le film de Spike Lee, qui faisait donc allusion au positionnement opposé, des positionnements opposés, entre Malcolm X, qui disait « il faut se défendre », quitte à utiliser la violence, et Martin Luther King, qui disait « non, c'est la non-violence, parce que la violence gangrène également celui qui la reçoit, mais également celui qui la projette ». Je vous laisse deviner dans quel camp se trouve Louise Michel qui, regrettait carrément de ne pas avoir tué Adolphe Thiers, qui était donc le chef du conseil démarrage de la Troisième République, qui a ordonné l'assaut de Paris, d'écraser avec l'aide, je rappelle quand même, des Prussiens, contre qui on était en guerre un mois ou deux avant. Et c'était des milliers de morts, hommes, femmes, enfants, grand-père, grand-mère, etc. Souffrance.
Oui, dans des conditions.
Oui, il y avait du sang. Ils disent même la Seine regorgeait de sang. Ils ont été obligés de brûler les corps en masse parce qu'il y avait des épidémies. Enfin, c'était vraiment le carnage. Donc, on comprend que la dame, elle est du ressentiment. Ce qu'elle pensait, en fait, c'est que si elle l'avait tué, comme c'était l'initiateur notamment des manipulations médiatiques pour monter les gens les uns contre les autres, c'est surtout ça. Parce qu'elle n'est pas dans le jugement tant de tous ceux qui ont fait, mais elle est dans le... Elle condamne ceux qui font faire et qui montent les gens les uns contre les autres. Et donc elle pense que si elle avait tué Thiers, comme ça avait été projeté, ça aurait changé les événements derrière, parce qu'elle aurait décapité en fait l'idée et toute l'organisation du gouvernement.
Tu as parlé de manipulation médiatique.
Ah oui, mais il y a clairement, moi j'avais lu d'ailleurs, je vous en avais parlé, ce bouquin « Tu me prends de court », qui est vraiment de la sociologie avant l'heure, je retrouverai le nom, où vraiment tout est... compulser les publications du gouvernement, il allait dans les archives, il a tout croisé, et il y avait clairement vraiment une distorsion entre les publications du gouvernement et les faits réels. Et il y avait une utilisation pour monter la population contre les communards. Il y a eu des choses, par exemple les pétroleuses, c'est une grosse invention, quoi. Les femmes qui portaient de l'alcool sur elles, du pétrole sur elles, pour mettre le feu, faire des explosions, mais ils ont fumé la moquette, quoi. Il y a eu des inventions complètement ahurissantes. Et tout le long, de monter des choses, mais ça n'existe plus. Alors, moi, tout ça pour vous dire que par rapport à ce grand concept que Toups avait émis la dernière fois, vous savez, Oh non. Vous savez, ce grand concept de numéro. Ah, mais si, tu vas nous faire réécouter cet extrait du film, parce que je suis allée à Do the Right Thing quand même, pour qu'on puisse réécouter cette énumération magnifique. Mais là, je vous promets, cette semaine, tenez-vous bien, préparez-vous psychologiquement. Toops va parler de musiciens et musiciennes qui font partie de la liste.
James Brown, Wayne Shorter, Tracy Chapman, Miles Davis, Force MDs, Oliver Nelson, Fred Wesley, Maceo, Janet Jackson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Count Basie, M2May, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Dexter Gordon, Sam Cooke, Parliament Funkadelic, Al Jarreau, Teddy Pendergrass, Joe Williams, Wynton Marsalis, Phyllis Hyman, Sade, Sarah Vaughan, Roland Kirk, Keith Sweat, Cool Moe Dee, Prince, Ella Fitzgerald, Diana Reeves, Aretha Franklin, Bob Marley, Bessie Smith, Whitney Houston, Dionne Warwick, Steel Pulse.
On est obligé d'arrêter avant la fin, malgré la voix envoûtante de Samuel L. Jackson, qui nous énumère donc des grands et des grandes artistes. Alors Toops donc en a choisi. Et pour alléger un petit peu cette dernière émission, parce que c'est vrai qu'on est bien plombant depuis le début, avec un printemps sanglant, on va partir sur à l'heure de l'été, grâce à...
Alors,
grâce à quel morceau ?
Grâce au morceau Summertime.
Ah bah quand même.
Summertime, qui est un morceau qui... dans mes recherches, je n'ai pas trouvé d'interprète masculin, sauf un.
Eh bien, pour une fois.
Alors, on commence par une interprète féminine, quand même.
Bah oui.
Oui.
C'est ma prof de chant.
Oui. Une certaine Diane Reeves.
Little baby.
Là, cette version. Déjà, faut tendre l'oreille pour reconnaître quand même le morceau que tout le monde connaît.
Ah oui, mais ça, c'est. Ça, comment dire. Elle a une particularité, cette Diane Reeves. Elle prend un standard que tout le monde connaît et elle arrive à trouver une façon de le chanter d'une façon que personne ne connaît. Donc là, en l'occurrence, elle a pris ce morceau de George Gershwin. Et elle lui a fait traverser le bateau pour voir comment c'était en Afrique. Là
traverser
où...
le bateau, l'océan en bateau peut-être.
Oui, oui.
Traverser le bateau et se retrouver au fond de l'eau, ça ne va pas être bon.
Elle a emmené le morceau de Gershwin chez ses ancêtres à elle, qui était en Afrique, en passant par des Yoruba. Par la tradition Yoruba telle qu'elle est transposée dans les îles de Cuba. Donc un petit mélange comme ça avec les chants des orishas, donc des divinités.
Oui.
J'ai pas envie d'aller trop loin.
T'as peur, hein? Ouais, non, ouais. Reste avec nous. Ouais. Oui, alors en tout cas, donc ça c'est assez déroutant, effectivement, comme version. Mais voilà, il faut juste se laisser emmener, quoi. Alors, sous le chapeau. Ton guest star masculin, c'est qui?
Un certain JB.
Un inconnu. Alors moi, j'ai dit JB James Bond.
C'était pas loin.
Mais au niveau chant, c'était pas top quand même. Donc, James Brown.
Tant.
Bon, mais c'est pas ça.
Get up, get
on. Et tu nous fais écouter?
Avec plaisir.
Summertime. The living is easy, yeah. The
happen, yeah. Not like it used to, yeah, yeah. I don't see the cotton go very high. Oh, oh, yeah, 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 yeah. My old daddy ain't rich. Thank God. My mammy is still good looking, yeah, yeah, yeah. Heading for my roots. So I wanna tell you out there, push you and you and you, and especially that little baby, yeah. Don't you cry. I don't care whether you're white, black, blue, green, yellow, red, purple, or orange. Don't you cry. God is gonna make it better, yeah. So much better, yeah, yeah, yeah. In the summertime.
For your sister and your brother.
That's all what it is.
Cause one of these mornings, yeah, you're gonna rise up singing, yeah, yeah, yeah.
You're gonna spread your little wings and take to the sky.
Standing by,
summertime.
Summertime.
Ok, incroyable.
Ah ouais, c'est net.
C'est une vraie, c'est pas une version de plus quoi. C'est incroyable cette appropriation. Alors, il y avait quand même une femme cachée derrière l'homme.
Ben oui, tu veux bien.
Et quelle femme, quelle beauté. Est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer sur la patte James Brown qu'on retrouve là quand même dans toute sa splendeur.
Son grand orchestre, c'est la précision de son orchestration et de... Oui, c'est une précision rare, un soutien sur lequel tu peux compter, mais sans aucune faille, quoi. C'est incroyable. Ça porte la voix et il n'y a plus qu'à se laisser aller. Après, il faut être capable de chanter comme il chante.
Oui, ils débrouillent bien quand même, les deux, là.
Ah oui, oui, c'est pas des garennes de trois semaines, là. Ils se débrouillent. Il faut mieux que se débrouiller.
Et alors, on en a une aussi qui s'est vraiment bien débrouillée et qui a fait une version, là, pour le coup, que je connais, et qui est majestueuse s'il en est.
Alors, c'est pas la version de l'album.
Ouais.
C'est une version live qui date de juste un an avant sa disparition.
Donc, alors, on vous a pas dit qui, mais elle fait partie de la liste du film.
Non.
Non. Oh non, c'est pas
non,
vrai.
Non, non.
C'est non tout ce qui finit en beauté.
Diane Reeves fait partie de la liste,
oui,
du film.
Oh.
James Brown.
Oh là
fait
là, mais quel talent. C'est incroyable. T'as réussi à en mettre deux.
Mais Janis Joplin n'en faisait pas partie.
Ah. Oui, mais c'était assez inévitable quand même.
C'était assez inévitable, et puis c'est Janis Joplin, elle a biberonné Bessie Smith, elle a biberonné tous les plus grands héros de la musique blues et qui sont d'ailleurs tous cités dans cette liste du film.
Et puis c'était notre façon à nous de vous souhaiter un bel été.
warm. I think she's a mighty good looking babe. I said she's looking pretty fine to me now.
Calibre 58, cette saison, c'était la voix claire, lucide et révoltée de Linda. C'était aussi les élancements contemplatifs et la grande culture jazz de Toobs. C'était enfin la technique, les contrastes heureux et l'érudition de Luc. Sans ces trois complices, c'est bien simple, l'émission aurait été bien fade. On se retrouve après les grandes vacances avec un nouveau format, quelques habitudes et quelques nouveautés. D'ici là, passez un bel été. Tchuss.
.5 FM.